Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Tout le monde et bienvenue dans ce 25e numéro de C'est la faute à la...
Manette.
Ouais,
manette.
Je crois que vous êtes habitués, on entend des nouvelles voix, même c'est bizarre ce soir. Au programme ce soir, on aura beaucoup de débats. On va commencer par vous parler de l'ex-Enix qui a désormais un nom. Est-ce que vous le savez? C'est...
Switch.
C'est la Switch, effectivement.
Ouais.
Enfin, wouh, depuis tout ce temps-là.
On peut plus faire la blague.
On pourra plus faire la blague, malheureusement, ça va être compliqué.
Je suis très triste.
On reviendra aussi sur la nouvelle campagne pour le PEGI. On vous expliquera ce que c'est, on vous dira ce qu'on en pense. Ferdi vous fera une rubrique sur les modes de No Man's Skies. On a une invitée surprise, on vous la présente après. Et Guillaume nous fera le point sur les jeux en promotion, Guillaume.
Hein, ouais, bah je vais essayer de trouver ça, ouais.
D'accord. Nous continuerons avec le débat sur ces séries qui ne méritent pas d'exister ou sur ces suites de bons jeux qui ont tout gâché, sans oublier notre fameux quiz final. Avec moi, l'équipe presque habituelle, notre hipster technicien X plus Alpha, c'est Guillaume. Bonjour, Guillaume.
Bonjour à tous.
Avec nous également notre troll modeur Extended Turbo Plus Edition, c'est Ferdi. Salut, Ferdi.
Bonjour à tous.
Également avec nous, notre quota féminin Ultimate Edition Game of the Year, c'est Mathilde. Bonjour Mathilde.
Bonsoir à tous.
Alors Mathilde, tu es fan de l'émission, c'est pour ça que tu as voulu venir aujourd'hui, c'est ça?
Bien évidemment, même si je ne suis pas plus préparée que ça, mais on verra.
En tout cas, tu remplaceras Tom ce soir qui est absent pour cause de je ne sais pas quoi. Et donc tu as l'air bien mieux que Tom. Déjà, tu as moins de barbe, ça fera moins de barbe à compter pendant l'émission.
Ouais, je me suis rasé avant de venir, c'est pour ça.
Bon, et ben voilà, c'est tout pour l'introduction. On va passer directement aux news avec notre petit débat sur la Enix. Developers. On a une grosse surprise, Nintendo nous a tous pris par surprise à un moment la semaine dernière. Il a annoncé qu'il présenterait sa fameuse NX, on se demandait bien ce qu'il pouvait nous préparer. Ouais. Et effectivement, en trois minutes, Nintendo a renversé et a fait démarrer la hype du train. Hein,
ouais, tout à fait.
Qui commence à démarrer.
Rien à voir avec le Zelda Spirit Track. Hein.
Bien sûr, on y reviendra sûrement d'ailleurs tout à l'heure. Donc... La NX a un nom, elle s'appelle la Switch. Alors la Switch, en quelques mots...
Il faudra faire le bruitage aussi avec.
Switch.
Clock.
Alors, Ferdi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est la Switch ?
Alors la Switch, ça sera une, comme les rumeurs l'annonçaient, une console de salon qui sera aussi une console portable.
Voilà.
Qui sera transportable. Donc c'est la console en elle-même, la vraie console, c'est un écran. Genre une tablette avec des manettes clippables sur les côtés. Voilà,
en gros, c'est un petit peu toutes les rumeurs qui se réalisent depuis...
C'est ça, c'est vraiment toutes les rumeurs en une seule.
Voilà.
C'est ouais, tout à fait ça.
Donc, on va dire... Alors, c'est un écran qui est tactile, multitouch, ça a été confirmé. 720p. Il y aura un espèce de dock pour le mettre sur la télé, comme
c'est ça.
Et d'où le nom, effectivement, tu switches directement de ta télé.
Et le dock permettra de passer du 720p à un faux 1080p.
Voilà, c'est un petit peu ça. Et...
Un upscale, on appelle ça dans le jargon, voilà.
Tout à fait. Les premiers jeux qu'on a vus, c'est bien sûr le fameux Zelda
Breath of the Wild,
exactement.
Et le reste des jeux, alors c'est peut-être encore des jeux qui vont pas être forcément dessus dès le début. Hein.
Ouais, c'est hypothétique, mais on a vu du Skyrim.
Donc Bethesda, ce qui veut dire que Bethesda.
Mais Bethesda n'a pas confirmé que c'est.
Voilà.
Oui, mais ça veut dire que Bethesda au moins confirme qu'ils vont travailler avec Nintendo.
Tout à fait.
Ça, c'est déjà une bonne nouvelle.
On a vu des images d'un jeu de basket qui n'est pas confirmé, qui avait l'air
beaucoup
juste.
Beaucoup pensaient à NBA 2K, mais voilà. Le problème, c'est que dans la liste des développeurs qui travaillent, il n'y a pas EA, donc.
Ça sera sûrement un jeu de. Peut-être pas plus arcade, moins simulation.
On verra bien, en tout cas. On a vu également des images d'un nouveau Mario.
Ça donne.
Qui avait l'air vachement bien, qui a l'air de se passer au Mexique. On a même vu des cactus avec des petits maracas.
On revient au désert.
Ça a l'air très sympa.
Il y a des images, moi, du Mario Kart qui me rappelaient quand même Mario Kart Wii U.
Oui,
mais modifications.
Voilà. Avec quelques modifications.
Peut-être une version spéciale, une réédition de la Wii U avec des personnages en plus, des circuits en plus.
Voilà,
quelque chose de simple, mais.
Un remaster non HD.
Ouais. D'accord, ouais. On parle aussi d'un Smash Bros. Qui serait effectivement sur la Wii U, qui serait le même que celui de la Wii U, mais avec tous les DLC, et il y en a un paquet.
Et ce serait vraiment cool, ça.
Et voilà, et peut-être un ou deux persos exclusifs qui. Parce qu'ils sont
Nintendo. Il y a une rumeur pour un Rayman d'ailleurs.
Un Rayman, ouais. Ah. Ils vont nous refaire le coup de Rayman Legend, ça va être absolument génial.
Ça serait bien. Non, ça serait. Voilà, c'est ça. Faut parler, donc là tu parles des jeux, faut parler des noms on se souvient pour la Wii U quand il y a eu le tableau des constructeurs et des éditeurs qui soutenaient, qui étaient petits finalement.
Il y en avait une quinzaine,
c'est ça, et là il y a pratiquement tout le monde, quoi.
Là c'est du lourd. Ouais.
Donc des noms qui sont what the fuck pour Nintendo, genre From Software,
ouais.
Des choses comme ça, ou Bethesda, Level 9, c'est des studios qu'on n'attendait pas du tout.
Ouais, et qu'on est plutôt bien surpris. Bah, moi j'ai la liste là devant moi, toujours Platinum Games. On a Telltale Games.
Telltale Games,
c'est quand même rigolo de voir ça.
Ça va être bien.
C'est parfait. Hein, là on imagine un Walking Dead où on transporte. C'est parfait, le jeu est fait pour, quoi.
Ouais, voilà, bah oui, c'est déjà sorti sur mobile, mais ça sera encore mieux d'y jouer là-dessus. On a Capcom, Codemaster. On en a plein, Sega, donc pour les prochains Sonic probablement, Ubisoft, Warner Bros. Game, Take-Two Interactive, Cryware, enfin après il y a tous les moteurs, il y aura du Unity, du Havok, du Autodesk, etc. Donc il y a quand même un gros catalogue, il y a Atlus aussi.
Ouais, oui. Atlus, Persona, on le rappelle.
Moi je commence à rêver, mais vu que c'est une console un peu près portable, je veux que ça soit la console des RPG.
Ça
parce
pourrait
que
être
c'est
génial.
Parfait. Imaginez, vous êtes dans un RPG dans votre salon, vous êtes en train de faire votre boss. Vous devez partir, vous emportez votre RPG partout. C'est vraiment fait pour, quoi.
Tu peux farmer pendant tes pauses du milieu au travail.
C'est vraiment un rêve.
Farmer pendant qu'on fait caca, ça va être.
Non, mais c'est
génial.
Trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien.
Non, ça va être bien. Non, non. Du coup, je vais vous poser une question à chacun. Dans un premier temps, qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept de la Switch ? On va commencer par Mathilde, du coup.
Moi, c'est l'aspect portable qu'on puisse pouvoir, comme disait Ferdi juste avant. Voilà, on est dans notre salon, on est en train de jouer, on doit partir pour X raisons. On peut l'emmener avec nous sans pour autant interrompre la partie. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Après, ça dépendra beaucoup des jeux. Moi, j'attends surtout par rapport aux jeux qui vont sortir.
D'accord. Ok, Ferdi ?
La même chose, le line-up. Les jeux de lancement, qui vont être, à mon avis, déterminants pour savoir si elle va survivre à la hype de la PlayStation 4 Pro, de la Scorpio et tout ça. Et c'est surtout, est-ce que certains constructeurs vont faire, contrairement à la Wii U, des jeux qui sont faits pour ce format-là ?
D'accord.
J'attends vraiment des jeux qui sont faits pour.
Pas un Batman Arkham Wii U.
Oui, voilà, par exemple. Je veux pas des remakes de certains jeux qui sont un peu vieux. Tout ça m'intéresse pas. ou peut-être un ou deux aller à la rigueur.
Oh, quelques remakes, ça pourrait être bien aussi.
Un Ni No Kuni qui sera plus une exclusivité Sony, des choses comme ça. Mais je voudrais bien vraiment un jeu qui a vraiment le côté, qui a une logique d'être sur le salon et une logique d'être transportable.
D'accord, voilà. Ok. Guillaume, qu'est-ce qui t'a plu ?
Bah moi, c'est le fait de me dire que je vais pouvoir... En fait, c'est toujours cool d'avoir une console de Nintendo, même si c'est pas la... Aujourd'hui, bah, la Wii U, je trouve qu'elle est pas très utile, à part certains jeux, mais ça ne donne pas envie d'acheter. Là, le fait que t'aies une console qui fasse en même temps ta console portable, du coup, et ta console de salon, donne déjà plus envie. Et se dire que là, les jeux de console de salon seront pas, de console portable, seront pas juste des jeux développés pour une console portable, c'est vraiment développé pour, bah, ça va être des jeux triple A, en fait. Souvent, quand tu regardes des jeux de DS ou de PS Vita, c'est souvent des petits jeux qui ont une beaucoup plus petite durée de vie, etc. Alors que là, on va se retrouver,
rien que voir,
Skyrim sur, je sais pas, partout, mais c'est fou, c'est intéressant, en fait. Ouais. Moi, si les specs sont confirmés que ça fait tourner tous ces jeux-là, je l'achète directement.
C'est un peu la Nvidia Shield
qui serait pas sous Android, quoi.
Voilà. Qui serait pas un constructeur de jeux vidéo.
C'est ça. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est une console qui est en phase avec son époque?
Totalement.
Je me demande si ça n'annonce pas non plus le début de la fin des consoles de uniquement.
Bah, déjà, quand on voit le projet Scorpio qui va être une espèce de console modulable, je pense un ordinateur Microsoft, ça risque, de toute façon les consoles c'est fini, enfin on voit déjà la PS4 Pro qui est une PS4 mais améliorée.
Gardez tous vos Super Nintendo
c'est la fin des consoles, mais après le problème c'est que la tablette a des puces Nvidia Tegra. J'ai peur, moi, de la performance. Après, je dis pas que Nintendo a toujours été les meilleurs. Je m'en fous, moi, finalement, d'avoir des graphismes 60 FPS, 4K. Ce qui m'intéresse, c'est juste de pouvoir faire tourner des jeux actuels, donc qui sortiront sur PS4 et Switch, mais qui puissent, du coup, bien streamer sur Switch. C'est-à-dire que je puisse jouer sur Switch comme si j'étais dans mon salon, mais là, à l'extérieur.
D'accord.
C'est à moi que je veux surtout.
Oui, voilà. Je veux qu'ils arrivent au moins, même s'ils sont pas dans la génération du futur, qu'ils arrivent dans la génération actuelle.
Okay.
Que, s'il y a une grosse licence
par exemple, on pourrait jouer à The Witcher, tu vois, dans ta poche, quoi.
Ouais,
c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Alors, on a vu Nintendo papillonner un petit peu ces dernières années de cible en cible, c'est-à-dire qu'ils ont visé les très jeunes, ensuite ils ont visé un petit peu tous les âges, ils ont essayé de reviser les gamers, ça n'a pas très bien marché avec la Wii U. Où se situe Nintendo maintenant ?
Alors, vu que là, il y a eu la PGW, la Paris Games Week, donc un salon à Paris, comme son nom l'indique. De jeux vidéo, ils ont dit que justement là le public c'était tout le monde, mais même si on voit dans la vidéo de la Switch c'est quand même un public assez jeune actif,
c'est nous finalement.
Oui, finalement c'est nous,
c'est à partir de 20, 22, 23
ceux
ans
ceux qui ont connu je pense la Game Boy Color quand ils étaient petits, quoi. Je pense vraiment
ce qui est intéressant c'est que les jeux montrés c'est pour tout le monde, ça veut dire qu'il y a du Skyrim HD pour le Krugi, il y a du Mario Kart pour toute la famille,
du Mario,
il y a un NBA pour tous les entre potes.
Il n'y avait pas
forcément...
le côté familial, c'est ça qui est fou, c'est entre potes.
Entre potes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous les âges de potes, c'est pas juste et tous les styles, c'est pas juste que du Mario ou que du truc.
Oui, j'ai même entendu, ça je me demande comment ça va marcher, mais il y aura un Just Dance par exemple, tu vois, sur Switch. Ouais. Et ça veut dire que les manettes vont être probablement avec des motion sensors.
Des petits capteurs de mouvement. Concernant la machine, on a appris aussi qu'elle ne lirait pas les jeux Wii U, effectivement, parce qu'elle adopte, on l'a pas dit, le format cartouche. Le retour du format cartouche.
Ah, un format cartouche pour une console de salon.
Après, il faut relativiser. Attendez-vous pas à avoir des grosses cartouches, ça sera des espèces de cartes SD.
Mais c'est des cartouches quand même.
Voilà, oui.
Elles ont l'air à peu près aussi grandes que ceux de la 3DS, mais la console, bien sûr, ne lit pas non plus les jeux 3DS.
Il faut environ, je pense, et en plus, aujourd'hui, les cartes SD peuvent faire des centaines de gigas, donc ça veut dire qu'on pourra avoir des jeux vachement puissants, et en plus, l'avantage d'une carte SD, par exemple, par rapport à un CD, c'est la vitesse de lecture.
C'est ça.
C'est-à-dire que les chargements vont être super lents et je pense pas qu'il y aura d'installation en plus sur la console de nécessaire.
Peut-être tout ce qui est mise à jour, ça pourra éventuellement
bien sûr,
faire, mais à part ça, je suis plutôt d'accord là-dessus.
C'est un gros avantage pour Nintendo, ça, à ce niveau-là.
Non, je pense que Nintendo ont été intelligents. Ils nous proposent encore quelque chose de novateur, vraiment plus novateur que pour moi la Nintendo Wii.
C'est vrai. Mais opération stratégique importante, Nintendo en a profité pour fusionner tous ses développeurs salon et portable, c'est-à-dire que maintenant ils sont tous au sein d'une même structure. Tout ce qu'on leur a reproché avec la Wii U, c'est-à-dire d'avoir un concept non abouti, il est abouti avec la Switch.
Il paraît abouti en tout cas.
Tout ce qu'on leur a reproché, c'est-à-dire de trop se disperser entre salon et portable et de pas arriver à faire la part des choses, ça va être réglé puisque tous les studios maintenant sont au même endroit. Est-ce qu'il serait pas sur la voie du retour gagnant ?
Allez, on y croit. Allez, moi, j'y crois. Moi, je préfère.
On leur souhaite.
On parle de console de jeux vidéo et je serais bien content qu'un constructeur de jeux vidéo revienne sur le devant de la scène.
Le problème est que le jour, on a su le jour même qu'ils allaient faire une annonce.
Ouais.
Et l'action avait augmenté beaucoup au début de la journée. Et dès que ça a été annoncé, beaucoup justement, l'action a baissé parce que justement les gens ont dit. Bah oui, mais on le savait déjà par rapport au leak.
Ouais.
Sauf que là, c'était une confirmation. Les gens ne comprennent pas que finalement, pour l'instant, c'était que de la rumeur.
Ouais.
Et le fait qu'on voit que ça tourne, voilà, bon, on l'a pas vu réellement tourner, c'est que des images, rien n'est vrai. Mais on a déjà le principe, le concept même. Après, voir, bien sûr, si on nous montre du Skyrim, donc on se dit que la console est suffisamment puissante pour faire un Skyrim, pour le remaster de Skyrim. Donc on se dit, ouais, c'est aussi puissant qu'une PS4. Nintendo a confirmé que c'était aussi puissant qu'une PS4 actuelle. Mais pour l'instant, on n'a rien de sûr. Et c'est ça qui fait peur, en fait, en même temps.
Ouais, et qui permet d'espérer aussi.
Et qui permet d'avoir encore de l'espoir concernant la machine, effectivement. Mais effectivement, les investisseurs, c'est pas non plus les meilleurs indicateurs de fiabilité. On sait tous qu'ils se gourdent, de toute façon, quasiment à chaque fois.
Ils pensent surtout à leur argent.
Je pense que c'est plutôt un bon signe. Si l'action a descendu, ça veut dire que ça va être, à mon avis, un succès. Moi, je le vois comme ça.
Et en jeu vraiment formalisés, qui sont sûrs de sortir, vraiment sûrs, c'est deux Dragon Quest.
Dragon Quest 11 est confirmé à 100%, Just Dance est confirmé à 100%, le Zelda aussi à 100%, pour l'instant on est sûr.
Déjà, Zelda et Dragon Quest, déjà
c'est bien pour un lancement, voilà. Je trouve.
C'est pas mal déjà sur un lancement de console.
Ouais.
J'ai entendu après moi, dans les dernières news, que en tout cas, la prochaine annonce allait être faite 13 janvier.
Donc, d'accord.
Retenez la date. On sait pas trop ce qu'il va y avoir, c'est quand même 2 mois avant la sortie, donc faudrait quand même qu'on commence à avoir des informations.
Là, je pense qu'on aura tout.
Même si on commence à avoir quand même des informations au compte-goutte des développeurs, etc. Parce que c'est pas rien, par exemple, qu'on a commencé à parler de Beyond Good and Evil 2 il y a pas longtemps, il y a une Switch qui sort,
c'est vrai.
Sortez, faites-le Nintendo, faites un gros doigt d'honneur à plein de gens avec ça, allez-y.
Du coup, on vous tiendra au courant des évolutions de la Switch, on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde du jeu vidéo. Il nous reste quand même 2 news, et une news incroyable, The Last Guardian n'est toujours pas sorti.
Et
ça, je suis vachement étonné.
S'il sort sur Nintendo Switch, on attendra. Alors là, par contre, là, moi, je réponds plus de rien. Là.
On peut dire aussi que FF15 n'est toujours pas sorti.
Oui, mais. Mais lui, encore une date, The Last Guardian.
Il ne doit pas sortir en décembre.
C'est marqué qu'il est gold.
Il est gold, voilà.
Alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour le sortir?
Je sais pas.
Vous attendez quoi, hein? Dernière news, du coup, il y a une nouvelle pub pour le système PEGI. Alors, bien ou pas, alors vous rappelle ce qu'est le système PEGI, c'est le système de classification du jeu vidéo qui permet de classifier les jeux selon l'âge auquel ils sont adaptés, à partir duquel on peut y jouer, c'est-à-dire 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans. PEGI a sorti une nouvelle pub en octobre, là, il y a un mois, juste, il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette pub? Je vous l'ai montré avant l'émission. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous pensez qu'il faudrait améliorer des choses? On en avait parlé un petit peu, mais on va commencer par Guillaume, tu as le plus de choses à dire, je crois, sur
alors,
cette pub.
La pub est bien, rapide, efficace, c'est tout ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin d'un truc long et chiant. Mais le problème que j'ai avec cette pub, c'est le fait que, je pense, après c'est que mon avis, c'est que des gens qui ne sont pas joueurs, par exemple un parent, je sais pas, je lui donne 40-50 ans, qui voit la pub... je ne vois pas comment il peut, par exemple, faire la différence, la distinction entre le 12 et le 15. Et le 16. C'est-à-dire qu'on voit des scènes un peu... La 3, déjà, ça rend trop puéril. C'est-à-dire qu'il y a des très bons jeux pour du PEGI 3. Par exemple, je sais pas, Mario, Rayman. Non, Rayman, ça va peut-être être PEGI 7. Enfin bref, pour du jeune public, mais aussi pour des gamers. Et là, la pub nous montre qu'en fait, les PEGI 3, c'est des jeux pour bébés, quoi. C'est genre, c'est Adibou, c'est des trucs comme ça.
Qu'il faut rappeler que le système d'âge, c'est pas parce que c'est un jeu pour enfants. C'est-à-dire c'est un jeu dont le contenu est accessible pour un enfant. C'est-à-dire même Geopolitical Simulator est 3 ans et plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence dedans, il n'y a pas de choses qui pourraient choquer un enfant. Mais un enfant de 3 ans ne peut pas jouer à Geopolitical Simulator.
Voilà. Mais je trouve que ça manque de quelques trucs.
D'accord. Donc ça manque un peu de clarté pour toi, mais est-ce qu'on...
Mais après, pour un game, franchement, moi je l'ai trouvé très bien, mais c'est vrai que, voilà, manque de clarté, je pense, pour un public qui n'y connaît rien.
Ok. Ferdi.
Moi j'ai trouvé, c'est pour une fois qu'ils prennent pas les joueurs de jeux vidéo pour des stéréotypes, etc. J'ai trouvé ça assez bien, pour une bonne publicité. C'est clair, c'est drôle surtout. Ça fait du bien, ça fait sourire en fait. Quand on connaît le jeu vidéo, ça nous fait sourire.
Quand on connaît le jeu vidéo, c'est ça le problème.
Oui, mais bon, c'est cool. Ça fait... D'habitude, c'est des pubs comme ça, ça ne fait pas sourire justement. Ça fait...
Et oui, c'est plutôt connoté assez négativement.
C'est plutôt moralisateur. Exactement. Là, il n'y a pas trop de morale. C'est... Voilà. Après, il faudrait peut-être la faire un peu plus explicite.
Un petit peu plus longue, peut-être. Ouais.
Un petit peu plus longue et un peu plus explicite.
Ok. Mathilde.
Oui, j'ai rien de plus à rajouter. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'ont dit Guillaume et Ferdi. Elle n'est pas moralisatrice. C'est plutôt agréable pour une fois. On n'est pas représenté comme le mal absolu.
C'est bien.
Et oui, peut-être la développer un petit peu. Ça peut paraître pas très clair pour certaines personnes, je pense.
D'accord. On se rappelle d'ailleurs de cette pub où des gens frappaient à une porte et tout, et la mère ouvrait,
il y avait
des prostituées qui montaient, il y avait des trucs, et en fait, faites attention aux jeux vidéo, je sais pas si vous vous rappelez.
Celle-là était plutôt...
Avec le lapin.
Plutôt extrême, c'est ça. Oui. Ouais.
Avec le pédophile, avec le lapin.
C'est ça. Et juste pour l'information, moi j'ai vu cette pub au cinéma, donc elle passe au cinéma également.
C'est la nouvelle, là ?
Ouais, la nouvelle, je l'ai vue au cinéma.
Oui. C'est pas mal.
C'est bien.
Pourquoi pas.
Voilà, donc plutôt une bonne chose. Du coup, on en a fini avec les news. On va enchaîner directement parce que c'est l'heure de Ferdi. Il va nous parler de plein de choses. Qu'as-tu à nous dire, Ferdi ? De la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Je vois que tu adores toujours ce générique.
Le générique que tu as choisi, il est vraiment bien. Donc ouais, je vais parler du jeu No Man's Sky, qui est mon jeu coup de cœur quand même de l'année, moi, malgré toutes les réticences.
Petit dire.
Voilà. Et comme je vous disais, pour GTA V, il y a des bons jeux qui, grâce au mode, deviennent une seconde vie. Puis il y a des jeux qui ont eu des malheurs et qui ont eu une mauvaise presse, et les modes le rendent vraiment bien.
D'accord.
Donc les modes de No Man's Sky, en fait, vont donc la source principale de mes modes, c'est nomanskies.mod.fr. On mettra le lien.
Et on remettra le lien comme la dernière fois.
Ouais, et c'est un site qui est très simple et qui permet de réparer pratiquement toutes les erreurs de No Man's Sky. Alors, la première chose à télécharger, c'est No Man's Sky Manager. C'est un petit logiciel qui permet en cliquant, en 2-3 clics, d'installer les modes. Et là, le jeu va devenir meilleur. Alors, le premier mode que je vais parler vraiment important, c'est Fast Action. Donc, en fait, No Man's Sky a un problème, c'est quand on veut faire une action dans le jeu, quelle que soit, ça prend 3 ou 4 secondes. Parce qu'il y a un petit cercle de chargement. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez joué.
J'ai le jeu. Hein,
Et en fait, maintenant, ça dure 0,5 secondes.
D'accord. Donc,
c'est automatique. Et donc, ça.
En plus, c'est tout con. Hein,
oui, c'est tout con. Mmh. Et c'est un truc qu'on n'a pas compris pourquoi ils l'ont pas fait dès le début. Voilà. Ça apporte. En plus, ça gêne absolument pas le jeu.
D'accord, ouais.
Donc, Fast Action.
Okay.
Et le mode qui a commencé à faire partie. C'est grâce à ce mode-là que j'ai découvert que les modes existaient sur No Man's Sky, c'est Low Flight. Donc en fait, c'est un mode qui permet, avec notre vaisseau qu'on vole au-dessus des planètes, de raser les planètes.
Okay.
Et d'aller même sous l'eau.
D'accord.
Ah, pas mal.
Voilà. Donc
pas
ça
mal,
permet en fait d'avoir une immersion, de pouvoir passer entre les montagnes, les arbres, etc. Et donc c'est un mode. Donc c'est Low Flight, vol bas.
Et
c'est le premier mode, hein, si vous cherchez dans les modes, c'est le mode le plus connu sur No Man's Sky. Et c'est vraiment très très bien parce que ça rend le jeu plus immersif. Un autre mode, c'est Big Things. C'est quelque chose qui va remplacer, qui va multiplier la taille de plein d'objets du jeu par 2, 3, 4 ou 10.
D'accord.
Donc ça permet en fait de faire que les planètes soient plus vivantes et surtout plus impressionnantes. Donc vous arrivez sur des planètes où les plantes font 20 mètres de haut, etc. Où il y a des cristaux de roches qui sont immenses ou tout petits, etc. Donc ça permet de rendre les planètes plus dynamiques.
Ok.
On a Immersive Space avec... alors ça, c'est toute une série de modes qui sont faits par le même créateur qui s'est concentré, lui, sur l'espace qui était autour. Donc, par exemple, il a fait Immersive Space qui rend l'espace plus sombre. Il a fait Buzzer Space qui est le mode qui permet de rendre No Man's Sky comme l'E3. Donc, qui permet, en fait, vous savez... La critique principale sur No Man's Sky, c'est qu'il y a plein de choses qui manquent. Donc, les batailles de vaisseaux spatiales, les rencontres avec des coups de vaisseaux marchands et tout ça. Et ben en fait, ils ont trouvé un système pour que grâce au mode, que les événements, comme ça, se déclenchent beaucoup, beaucoup plus.
D'accord.
Donc, une fois sur 100, ils sont une fois sur 10.
Ça ressemble vachement plus à ce qu'on avait vu,
du coup,
à l'époque.
C'est ça. Donc, par exemple, moi, grâce à ce mode, on peut voir les batailles avec les vaisseaux, on se faire attaquer par des pirates, on peut se faire contre-attaquer, etc. En fait, tous les petits événements aléatoires que normalement le jeu peut nous donner en 100 heures, on l'a en une dizaine, en même pas 5-6 heures.
D'accord.
Voilà, donc c'est
très intéressant. Est-ce que ça peut changer la fin du jeu ?
Non.
Merde.
On a.
Que je ne connais toujours pas, hein. Merci de ne pas me spoiler, j'aimerais arriver jusqu'au bout.
On a No Man's Sky Expedition Mode, qui est pareil, qui est un mode qui aurait dû être de base, qui permet en fait d'accélérer tout. C'est-à-dire que notre vitesse de course, notre vitesse de jetpack, notre vitesse de déplacement et tout ça, tout est accéléré fort 3 ou 4.
D'accord.
Et donc en fait, ce qui rend le jeu plus dynamique, sans le rendre surhumain. On n'est pas Superman, on n'est pas Flash, on n'est pas un super-héros, mais on
a toujours une barre de fatigue.
C'est ça, mais ça va, c'est plus logique en fait. Ça permet aussi de visiter les planètes plus facilement.
D'accord.
On a un mode que j'aime beaucoup, qui c'est les montagnes, qui permet d'avoir quelque chose qui n'était pas dans le jeu de base, alors qu'il était pareil dans les vidéos de l'E3, c'était des montagnes, des vraies montagnes. C'est-à-dire des vrais cratères, de géographie, en fait. Voilà. Alors après, il y a des modes avec les créatures, donc Increase Animals, ça augmente le nombre de créatures. Bigger Creatures, ça permet qu'elles soient plus grandes. On a surtout aussi un mode, j'ai pu retrouver le nom, c'est un mode qui permet d'avoir les dinosaures de l'E3. Vous savez, les brachiosaures.
Oui, les fameux.
Ben, ils sont présents dans les fichiers du jeu. Et il n'y a aucune
ils
raison.
Ils ont pas été ajoutés.
Ils ne sont pas dans le jeu de base. Il n'y a aucune raison. Et finalement, grâce au mode, on peut les avoir. Il y a aussi des modes qui permettent d'avoir plus de créatures type dinosaures, donc des créatures assez grandes et avec des écailles, etc. Et on a là le dernier mode qui est sorti, qui me fait beaucoup beaucoup plaisir, c'est Perfectly Procedural Propre. Donc ça permet en fait de générer les bâtiments de façon aléatoire. Donc vous savez, dans No Man's Sky, on trouve des bases, elles sont toutes faites pareilles, ce qui est très bizarre. Et bien grâce à ce mode, elles sont différentes. Elles ont des formes pyramidales, l'architecture est totalement différente pour chaque planète. Voilà, comme pour les plans, pour le reste. Okay. Et grâce à ce mode, en fait, le jeu change tout totalement. Et ce qui est bien, c'est qu'il est en train de travailler pour qu'il y ait des planètes-villes.
D'accord.
Donc, qu'on arrivera sur des planètes où toute la surface serait recouverte de bâtiments générés procéduralement.
Ouais.
Voilà, merci.
Donc, j'en profite que Tom soit pas là. En fait, ça transforme No Man's Sky en Star Citizen, mais qui est déjà sorti.
Ouais, mais peut-être avec des graphismes un peu moindres.
Voilà,
oui,
ouais.
Mais bon, c'est
j'essaie
pas grave,
de défendre.
Alors, les graphismes, pareil, il y a tout. Ça, j'en parle
pas. Il y a pas de fou quand même.
Bah, il y a tout un truc en fait là qui permet d'avoir des meilleures textures. Textures vraiment 4K, des choses très impressionnantes. Et surtout pour les effets, en fait. Donc l'eau, les effets de particules, tous les effets ont été réajustés pour que sur des écrans plus grands, des résolutions plus grandes, tout passe.
D'accord.
Voilà. Et je conseille le dernier petit truc que je vais conseiller comme mode. C'est un trainer, donc, comme je vous avais parlé. Je vais vous sortir à chaque fois qu'on va parler de mode. Le trainer, c'est un petit logiciel qui s'active en même temps que le jeu. Et vous appuyez sur les touches, donc F1, F2, F3, et ça vous met des bonus. Et donc grâce à No Man's Sky, l'aspect négatif que beaucoup de joueurs ont, je passe mon temps à farmer. Et bien grâce à ça, vous n'aurez pas à farmer, vous allez juste faire de l'exploration et vous faire plaisir.
D'accord.
Voilà, c'est des modes, ça vous donne toutes les ressources, etc. Infini.
Ouais, moi, j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu as trouvé des modes un peu plus improbables, dirons-nous ?
Alors, il y a les modes audio qui permettent d'avoir les bruitages de Rick et Morty ou Doctor Who.
Ah, ça, oui.
Ah, pas mal.
Et ce qui est bien, c'est que finalement, c'est totalement l'univers. Il y a quelque chose qui a été improbable, c'est que grâce au mode donc trainer, on peut avoir le jetpack à l'infini. Et le mec a testé, il a appuyé sur la touche de jetpack. Il a laissé son truc sur la touche espace, puis il est parti pour voir jusqu'où on peut voler. Et en fait, qu'on peut être dans l'espace.
D'accord.
C'est-à-dire que l'espace n'est pas une limite pour l'humain. Et les astéroïdes qu'on voit dans le ciel, on peut aller dessus. Et donc, il y a une vidéo du mec qui
part. Il y a un gars de la NASA qui dit ça, tu sais.
Qui part de sa planète. L'espace, et on voit décoller, comme le vaisseau.
D'accord.
Arriver sur un astéroïde, se mettre dessus.
Ok.
Donc, les astéroïdes ont une forme physique. Donc là, les modeurs sont fous parce qu'ils se disent, on va faire des trucs.
Alors, est-ce que tu as vu un mode antisexiste dans lequel il y aurait autant de dinosaures masculins que féminins ?
Non. Par contre, il y a un mode qui permet d'avoir des voix féminines à la place des voix masculines et inversement.
D'accord, c'est déjà pas mal.
C'est déjà ça, oui.
Je voulais rebondir sur No Man's Sky. Bon, on a finalement parlé par rapport au bashing YouTube, blablabla. Mais t'as vu que le Twitter du développeur a dit que c'était
no Man's
une
Sky
erreur.
Was a mistake. Ouais.
Je sais pas pourquoi en penser, mais.
Je sais pas du tout. Je sais pas qui l'a dit.
Développeurs le disent aussi.
Écoute, j'ai pas vu du tout ça.
En fait, c'est sur le site donc de Hello Games,
ouais.
Le développeur de No Man's Sky, tu as eu un tweet marqué No Man's Sky was a mistake.
D'accord.
Il est resté peut-être 15 minutes à tout casser.
Ouais, mais alors je pense que ça doit être un ras-le-bol aussi.
Ou un complot.
Et s'il meurait après.
Ça m'a fait rire, moi perso.
S'il meurait, la tête pensante de No Man's Sky, celui qui était mis en avant, a dit que le site avait été piraté, que c'était pas lui, etc. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé.
D'accord.
Un complot, du coup.
Le mystère reste entier.
Donc No Man's Sky, grâce à ces modes, si vous avez No Man's Sky qui traîne sur votre disque dur, vous vous êtes pas fait rembourser. Bien joué. Je soutiens. Et faites un tour sur No Man's Sky, je vous montrerai l'adresse. Les modes, ça va vous prendre à aller. Petite vingtaine de minutes, c'est tous les jeux à installer, tous les jeux à faire. Ça va, pareil, comme je disais d'habitude, ça va pas changer votre jeu, ça va pas changer vos sauvegardes.
Okay.
Ça touche absolument pas ce que vous avez déjà découvert. Et ça permet de relancer le jeu et de quelques heures d'exploration à faire. Ah. Voilà.
Et ben merci Ferdi.
Je sais pas que ça m'intéressera moi quand le jeu sera en promo. Donc,
Du coup, Guillaume, est-ce qu'on a des bonnes promos ce soir ?
Tu veux que je mette le jingle avant ?
Tu peux mettre le jingle parce que c'est le meilleur.
Yo, je suis radin et ça m'empêche pas d'être un mec sympathique. J'ai des oursins dans les poches et quand faut payer, ça pique. Les Romains qui tendent la main au feu pour moi, c'est des sadiques. Je voudrais payer mes factures avec une baguette magique.
Hop.
Pas mal aussi ce jingle, j'avais.
C'est mon préféré, vraiment c'est mon préféré.
Ça lui va plutôt bien quand on le connaît.
on est 3 contre 1.
Oui, ça l'a pas fait rire.
Alors Guillaume, qu'est-ce qu'on a?
Alors bah, comme d'habitude sur le site de Humble Bundle, comme tous les mardis à 20h, de nouveau Humble Bundle. Ah. Alors là on a un Humble Life Hacker Software Bundle, donc vie de hacker logiciel bundle en français.
Magnifique. Voilà. On dirait et... professeur Gorpheus.
Ouais, presque. Je le copie un peu. Alors dedans on a au premier palier un logiciel Brivi, je ne connais pas. On a le logiciel Fences. Fences, si vous avez Windows 10, je vous le conseille. C'est un logiciel qui permet de trier les icônes de votre dossier. Un très bon logiciel qui doit coûter d'habitude 10€, et là il a 1$ du coup sur le Humble Bundle. Je le conseille vraiment pour les gens qui sont un peu maniaques pour le tri, etc. Il est vraiment sympa. Au début il est très dur à pratiquer, mais après ça va. On a Directory Opus 12 Lite, je ne sais pas ce que c'est. Après au palier de la moyenne, on a un VPN très connu qui est CyberGhost. Un VPN, ça sert à se connecter sur un... En gros, à crypter un peu sa connexion pour pas qu'on nous retrouve, on va
en
dire.
En gros, ça sert à faire croire que t'es en Russie alors que t'es en voilà. France.
C'est tout à fait ça, pour faire simple. LastPass Premium, un an d'abonnement, je ne sais pas ce que c'est LastPass, désolé. Display Fusion, c'est pour avoir du des moniteurs multiples. D'accord. Donc ça va être pour faciliter ça. Et après, au palier des $15, vous avez Bitdefender pour un an d'antivirus. Donc c'est un gros antivirus, Bitdefender. Donc ça vaut le coup pour 13,70€. Et on a Acronis True Image 2017, donc un logiciel... je ne sais pas quoi, mais voilà. Mais je pense que pour 13,70€, ça vaut vraiment le coup si vous cherchez plein de petits logiciels.
Alors pour info, LastPass, je suis en train de regarder, c'est un logiciel de gestion de mots de passe, donc je suppose que c'est une base de données où tu rentres tous tes mots de passe.
Ça, c'est plutôt sympa.
C'est plutôt intéressant, c'est plutôt sympathique.
Voilà. Après, on a deux autres Humble Bundle. Le premier, c'est le Humble Days of the Dev 2016 Bundle. Avec en premier palier de $1 le jeu Luminosity, le jeu Broken Age, le jeu Titan Souls.
Non, ça va.
Pour plus de la moyenne, donc $4,40, vous avez Massive Chalice. Il était sorti sur Xbox aussi, lui.
Ça me dit quelque chose.
Ouais, Oxenfree et Grim Fandango Remastered.
Sérieusement ?
Oh, oui.
Pour combien ?
Pour $4,40.
Alors, si
le remastered.
Tous les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ne le prennent pas, je descends chez eux avec des crânes et je les assomme avec. Prenez-le, ouais, bah, sérieusement, prenez-le.
C'est très bien.
Mais même sur mobile maintenant, jeu.
C'est un jeu exceptionnel.
J'ai vu sur l'App Store le jour. Et pour $9, du coup, vous avez Days of the Tentacle Remastered.
Oui.
Et le nom vend du rêve.
Ça vend du rêve.
Vous avez un ticket VIP pour le Days of the Dev. Donc ça doit être des jours pour le développement.
Très bien.
Et enfin, le dernier bundle qui, je crois, qui n'était pas très intéressant. Enfin, si, en fait. C'est le Humble Gems Bundle. Gems, G-E-M-S.
D'accord.
Avec... pour $1, Techno Baliton.
Inconnu au bataillon.
Ouais, après Odalus The Dark Call. Il n'y a pas le PCiste ici, c'est dommage.
Oui.
C'est vrai que ça nous aurait aidé. Ouais.
On a la Chroma Squad aussi. Comme
c'est
jeu.
Cool ça.
Et après, si vous mettez plus de la moyenne, vous aurez Spyra en Early Access. Vous aurez Westerado Double Barrefeld. Et Asso Android Cactus. Pour le palier de la moyenne. Et pour $12, vous avez le jeu Unbox.
J'espère qu'une personne dans le monde a compris le contenu de ce bundle.
Ouais, ouais voilà.
Celui d'avant,
qui doit être très bien.
Qui doit être sûrement très bien.
Celui d'avant avec Grim Fandango et Death of the Tentacle.
Ouais, visez surtout celui-là parce que celui-là, il nous parle.
Ouais, c'est du lourd. Hein,
il a l'air bien. Ce sera tout, Guillaume, ou
après,
est-ce qu'il y a encore autre chose
J'ai vu, pour ceux que ça intéresse, sur Amazon, ce temps-ci, il y a Assassin's Creed Syndicate sur Xbox One avec un steelbook, un très beau steelbook à 20€. Donc si ça peut intéresser certains...
Alors on va vous teaser, on vous fera gagner Assassin's Creed Syndicate là, sur la prochaine émission, notamment.
Normalement, ouais, sur
normalement,
la prochaine.
Normalement, si sur la prochaine.
Soit la prochaine, soit celle d'après.
Voilà, on aura des cadeaux à vous faire gagner, on vous tease quand même la fin ou le début de la prochaine saison, comme ça.
Voilà, et sinon oui, pour Halloween, il y a les soldes Steam. Ouais. Donc je reviens dessus vite fait. Il n'y a pas que des jeux d'horreur pour ceux que ça pourrait faire peur. Par exemple, il y a The Witcher en édition complète avec tous les DLC à 40€. Donc ça peut valoir le coup. C'est environ les prix qu'on peut trouver dans les meilleures promos sur internet, mais là c'est en démat, après faut aimer. Vous avez plein de jeux, par exemple moi je me suis pris Binding of Isaac pour 2€ avec son DLC. Donc,
c'est bien,
ça voilà.
C'est bien Guillaume, on t'aime Guillaume.
Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur les jeux pas chers.
Ok, merci, et bah Guillaume. Du coup moi je vais enchaîner par un petit truc, je voulais juste revenir sur un jeu auquel j'ai joué il y a pas longtemps. Bon,
il a fait son Halloween à lui.
J'ai fait mon Halloween à lui, j'ai fait un jeu qui fait peur, j'ai joué, tenez-vous bien, à Sonic the Hedgehog. Alors pas le
Oh mon dieu.
Pas celui de 1991, hein, celui de 2006, celui qui est sorti sur Xbox 360 à l'époque.
Là.
On rappelle qu'il s'agit du deuxième plus mauvais Sonic après Sonic Boom. et ce n'est pas volé comme titre. Hein. J'ai joué au jeu pendant près de 5 heures.
Ce qui est donc beaucoup trop.
Alors, comment ça se passe dans Sonic the Hedgehog ? Tu arrives dans une ville absolument dégueulasse, absolument moche, remplie de PNJ à la forme humaine avec Sonic qui ressemble un petit peu à une mascotte de Fury, assez dégoûtante hein, d'ailleurs. Il y a une espèce d'histoire d'amour avec une humaine. Enfin, c'est très, très dérangeant. Tu parles à des gens qui te font des sons de genre. Alors, c'est les seules paroles qu'ils ont, bien sûr, et il y a du texte en dessous. C'est affreux, c'est moche. Tu es suivi par Tails qui bug dans tous les murs, c'est-à-dire qu'il se prend des murs, et à chaque fois qu'il y a un mini-obstacle, il saute et il fait un bruit de genre « Ah ! Ah ! » Et tu entends ça à peu près 20 fois par minute.
Dans la vidéo de l'ermite moderne.
Ça m'a rendu fou. Alors, du coup, plutôt que de vous parler du jeu qui est absolument horrible, je vous ai fait un top 3 de mes bugs préférés de Sonic. Alors, je tiens à vous dire que dans le premier niveau, je suis seulement mort 10 fois, dont 8 fois en passant à travers le mur. C'est pour vous donner un peu l'idée de la qualité de ce
finition.
Titre. Donc, le premier bug, donc le troisième, celui qui m'a bien amusé. J'étais en train de me balader dans la ville, bien sûr, à la recherche d'un chien. Parce qu'on recherche un chien, à un moment, peu importe. Et à un moment, je saute par-dessus de l'eau, Tails tombe dans l'eau. Tails réapparaît devant moi, sauf que Tails est mort. Tails est mort, il est là devant moi, il est complètement allongé au sol, je peux passer à travers, il est mort. Il est mort, il ne me suivra plus jamais dans la ville jusqu'à ce que j'entre dans un niveau. Tails est mort.
Ah, le truc traumatisant pour les enfants.
Ils ont osé, effectivement. Le deuxième, je voulais raconter un petit peu tout à l'heure. C'était quoi déjà ?
Silver.
Ah oui, c'était
avec
ça.
Silver,
oui, il y a un
combat
contre un
Silver.
Boss. Ce boss a un pouvoir de télékinésie qui vous projette un petit peu sur les murs dès que vous l'approchez un petit peu trop. Il faut le taper quand il vous envoie des chaises ou des choses comme ça. Du coup, mon but, voilà, c'était de le frapper. Je pensais pouvoir le frapper plusieurs fois, sauf que, pas de bol, au bout du deuxième essai où tu essaies de le frapper, plus que du coup la première fois, il te chope en l'air, il t'envoie dans les airs, tu rebondis contre un mur invisible, tu meurs et tu perds tous tes rings. Il te reprend, il te renvoie en l'air. Cette fois, tu retombes la tête la première et Sonic est planté la tête dans le sol comme un vieux champignon et meurt comme ça. Tout simplement.
Oh là là.
La fameuse politique de l'autruche.
La fameuse politique de l'autruche de Sega de l'époque, effectivement. Et le dernier bug, et pas des moindres, j'étais au premier boss, après beaucoup de sueur et beaucoup
de larmes
et de sauts dans le vide, j'étais au dernier quart de la vie du boss, effectivement, le dernier moment où je devais le frapper. Alors, le pattern pour le frapper, il faut monter sur son dos, glisser sur son dos, atterrir sur sa tête et le faire s'écraser contre un mur, peu importe, ok, ça marche. Sauf qu'à la dernière seconde, il se relevait en même temps que je glissais sur son dos, ce qui fait que Sonic s'est envolé. J'ai traversé le mur. J'ai traversé le plafond, j'ai traversé le mur, je suis ressorti par en dessous le niveau, je suis remonté, et ensuite j'ai vu les étoiles. C'est-à-dire j'ai vu un vide intersidéral jusqu'à ce que le jeu s'arrête, freeze pendant quelques secondes et me remette au début du boss, bien sûr, comme si je n'avais rien fait.
Sonic a dû mourir à ce moment-là. Il a vu le néant,
voilà.
Le paradis.
Et en fait, c'est le premier Sonic interdit au moins de 16 ans.
C'est vraiment effrayant. J'ai passé un très bon Halloween. Merci de le demander.
Merci, Sega.
Du coup, on va faire une mini-pause musicale parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps ce soir.
Ça tombe bien, la musique n'est pas très longue.
Et ben voilà. Et après, on revient pour le débat tout de suite.
Allez, on s'écoute une musique de l'OST de Rayman Legend avec Castle Rock.
Mumble up!
On vient de s'écouter du coup une musique de l'OST de Rayman Legends, très bon jeu, avec Castle Rock, et on est toujours dans C'est la faute à la manette.
Et c'était génial comme musique.
Plutôt cool.
Ça fait du bien. Du coup, on enchaîne maintenant avec le débat sur les séries qui sont devenues un petit peu moisies, au moins le temps d'un épisode.
Ou voire même plusieurs.
Ouais, on va en parler.
Soyons francs.
Alors, qui veut commencer? On a une petite liste non exhaustive. Allez, Ferdi, je sens que tu as envie, vas-y.
Moi, je veux parler des Resident Evil.
Vas-y, oui.
Alors, Resident Evil, c'était une super série de jeux d'horreur. Hein. Resident Evil 1, 2, 3, 4, Resident Evil Code Veronica. Puis après, il y a eu le cinquième qui a commencé à cheminer la Resident Evil sur le voie de l'action débile et outrancier. Avec un. Alors, qui était encore potable. Hein.
J'aimais bien le 5.
Qui était encore potable parce qu'en deux joueurs, il était cool. Puis après, il y a eu le 6.
Et là,
c'est le drame. Puis après,
c'est qu'un jeu, hein.
Et après Resident Evil, il y a eu les Umbrella Chronicles et le dernier, je sais plus comment il s'appelle, qui est sorti aussi sur PC là.
Le truc multijoueur.
C'est
Umbrella, je sais
Umbrella
plus quoi.
Umbrella Chronicles, non?
Non,
un autre encore.
Umbrella Corporation.
Et là, Resident Evil, il est parti quoi.
Ouais.
Là, on peut, voilà, c'est comme on suicide totalement une licence donc. J'ai une espérance totale pour Resident Evil 7 qui va peut-être refait rêver rien qu'avec des démos. Alors, qu'en est-il?
Silent Hill, Resident Evil plutôt.
Le nom va être associé à un bon jeu, ça fait longtemps.
Alors si vous voulez un bon jeu qui fait peur, jouez à Outlast.
Ouais, sur la Next Gen, ou les Five Nights at Freddy's. Mais c'est souvent des petits jeux en fait, il n'y a pas des vrais gros jeux, à part Outlast.
Alors est-ce que tu as joué à la démo d'Outlast 2 pour le
J'ai téléchargé, pas encore joué.
Alors j'y ai joué et
il a l'air vraiment sympa.
Vraiment super cool. Ça commence enfin à ressembler à un grand jeu, pas à un jeu où tu répètes toujours les mêmes mécaniques, c'était le problème un peu du premier. Là on sent qu'il y a du travail, notamment dans le game design.
L'univers a l'air mieux.
Oui,
je sais pas s'il y aura des armes, par contre, je crois qu'il y aura quelques armes pour te défendre.
J'en ai vu aucune dans la démo.
Ouais, tant mieux que ça reste dans leur même univers.
Et ça reste bien sûr d'un glauque absolu. Et vraiment assez sanglant, assez
j'espère
fou.
que Resident Evil 7 à côté fera passer Outlast pour un jeu pour enfants.
J'aimerais vraiment.
La photo promotionnelle qui traîne avec la famille de Resident Evil qui est autour d'une table. Ça me fait penser à Massacre à la tronçonneuse, mon film du cœur. Ça me fait penser vraiment à cette ambiance-là de film des années 70.
Je pense que c'est le but.
C'était vraiment effrayante.
Qui mettent pas tout sur la VR, quoi, parce que ça va pas marcher, la VR, ça sera pas joli.
Non, mais à mon avis, ça sera une option.
Juste une petite option, mais c'est tout, s'il vous plaît.
Du coup, à part Resident Evil, il y a Silent Hill, bien sûr. Silent Hill qui est tombé un peu dans l'oubli, il faut le dire, ces dernières années.
Les 4 premiers épisodes, vraiment.
Les 4 premiers sont excellent, ils ont tous leurs particularités, le 2 étant, je pense,
le meilleur
à tous les niveaux. Le 4 avait une approche intéressante, avec ce côté d'enfermement, de claustrophobie absolument.
Et qui restait un bon jeu.
Un bon jeu dans tous les cas, mais à partir du 5e, c'est là où le bas blesse. Justement, j'ai l'impression que le 5e épisode des jeux d'horreur,
ça fait du mal.
On allait nous sortir un super Silent Hill avec Norman Reedus, aka du coup Darren Dixon dans Walking Dead, et ça finit par devenir un flipper.
Un pachinko. Ce qui est pire.
Silent Hill, est-ce que ça vous manque?
Ah oui. Moi, depuis l'épisode DS où on peut faire de la magie, c'est un Silent Hill au tour par tour, avec des combats au tour par tour RPG, je sais pas si tu connais.
Quoi?
Oui, sur 3DS. C'est un.
Tour par tour,
avec des armes à feu, des lance-flammes et tout ça, et tu te combats contre des extraterrestres et c'est nul.
Révélation?
Je sais plus.
C'est Resident Evil, ça?
Il y a celui sur PS.
Non, Silent Hill Révélation.
Ah ouais, ça existe?
Ouais, c'est de la merde.
Révélation 3D.
Puis,
Dying in Salvation, Silent Hill Révélation 3D.
Mais c'est sorti chez nous, ça?
Ah non, c'est un DeviantArt.
Non, mais il y en a eu un. Enfin, il y en a eu un sur 3D.
Et là, en France?
Oui, en France.
Sérieux?
Ouais, alors il porte bien son nom parce qu'il est effrayant.
Silent Hill The Room.
Ça doit être ça, oui.
Silent Hill 4 The Room, il y a.
Ah non, ça c'est le 4.
Non, ça c'est le 4.
Mais sur 3DS, hein.
Il y en a un qui est tout nul.
Ok, vous m'avez appris un truc. Alors là,
Sûr que c'est plutôt sur DS.
Ouais, c'est sur DS.
Parce que j'ai l'impression que c'est que des faux.
Ah
là,
c'est sur DS. Alors c'est sur DS. Je sais plus. Enfin, mon esprit a oublié des trucs.
Silent Hill Origins. Ou DS.
Ça doit être ça.
Il faut que je l'achète alors.
Ah bah oui. Vas-y. Donc voilà, dans Silent Hill, pareil. Et puis là, maintenant que c'est parti, que Konami, ils sont complètement pétés du bulbe.
Ah, ils sont fous là maintenant.
Donc voilà. Donc,
c'est la fin.
Silent Hill, c'est la fin. On va le revoir après Metal Gear Solid contre des zombies. Avoir Silent Hill contre des lapins, puis voilà, ça sera la fin de la série.
Des lapins?
Écoute, ils inversent les univers, donc.
Silent Hill contre les Silent Hill,
ou Silent Hill contre les robots, quoi, ça va être. Voilà, c'est.
Alors qu'ils avaient des gros projets avec.
Kojima, Guillermo del Toro, Norman Reedus, voilà.
C'est fini, Konami, c'est fini. Du coup, je voulais laisser Mathilde parler d'une série qu'elle aime particulièrement. Je te dis pas laquelle, mais je pense que tu sais déjà.
Absolument pas. Alors, clairement.
Si tu nous parlais de Sonic.
Lesquels?
Parle-nous des mauvais. Et on peut dire que t'as du boulot là pour le coup.
Non, il y en a beaucoup trop, surtout dans les derniers qui sont sortis. Mais comme on disait avant, il y en a quelques-uns qui sont pas trop mal. Mais...
Alors, pour toi, la plus grosse insulte faite à la série, c'est quoi?
Alors, je dirais Sonic Boom, juste pour ce qu'ils ont fait à Knuckles, clairement. Alors, non, Sonic 2006, c'est vraiment pas terrible non plus de ce que, ce que tu as pu en dire avant. Pour y avoir joué, pas 5 heures, mais un petit peu.
D'ailleurs, j'avais oublié de préciser, dans Sonic 2006, il y a des passages qui sont absolument super durs. Et par exemple, tu sais, quand tu rides sur des rails, sur des petites choses comme ça, et j'ai remarqué un truc incroyable dans Sonic 2006, c'est-à-dire que le jeu se joue mieux quand tu poses la manette. C'est-à-dire que toutes ces phases de rail, c'est vraiment un rail pour le coup. Quand tu poses ta manette, le jeu joue vachement mieux de toi. Voilà, c'était juste pour la parenthèse.
C'est ça en fait la révolution du gaming, c'est de ne pas jouer
aux jeux vidéo.
Exactement.
Par la pensée.
Donc Sonic, des mauvais, il y en a eu beaucoup depuis le passage à la 3D1 notamment.
Ça les a tués en fait.
Depuis Sonic R.
Il y a eu les Sonic loup-garou, le Sonic chevalier.
C'est rigolo sur le moment.
Je sais pas pourquoi ils sont partis dans des délires un peu comme ça.
Je sais pas.
Ça reste ma grande question.
On peut parler de Sonic 4 juste.
Pour faire à la Mario peut-être.
Oui,
alors qu'ils avaient, comme je disais à Julien avant, ils avaient vraiment essayé de faire une trame scénaristique avec toute la saga qui est sortie sur GameCube. Et là, c'est dommage, ils sont partis un petit peu en live. Enfin, je sais pas ce qu'ils... Ils ont voulu innover, mais ça n'a pas forcément
Sonic
marché, je sais pas.
Et ses amis débiles, hein. Faut pas oublier que c'est un meme sur Internet. Voilà.
Ouais, et surtout, il y a une communauté assez large en plus de Sonic, tu vois.
Ils sont pervers en plus, les...
Ouais. Ouais.
Oh,
c'est, des fous, hein.
C'est des fous, ouais. On va pas en parler, ce sera peut-être pour une prochaine émission. Les déviances bizarres du jeu vidéo. Guillaume, du coup, est-ce que t'as une série de laquelle t'aimerais nous parler, même qui n'est pas sur la liste qu'on a faite toi qui t'as...
On pourrait parler, justement, vu que j'avais mis cette musique en intro, c'était la musique du coup, quand ils avaient sorti le Assassin's Creed 2.
D'accord.
Je pense qu'Assassin's Creed pour en faire partie, oui et non, en fait.
Il a presque commencé à en faire
partie. C'est-à-dire qu'on se retrouve, en fait, avec des jeux tellement ennuyants que ça commence à... On pourrait parler aussi de cette déviance à vouloir faire des jeux...
Pour faire des jeux.
Corrects. Pas faire des bons jeux, faire des bonnes aventures.
Ouais.
Et on a de plus en plus ça, tu regardes, les Call of Duty qui sortent tous les ans, tous ces jeux-là qui sortent en annuel. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a très peu de sagas maintenant qui continuent à faire des jeux avec, qui prennent le temps. Le meilleur exemple est The Witcher, et je pense qu'après The Witcher 3, il y a beaucoup de développeurs qui se sont dit, faudrait peut-être prendre notre temps, dont Assassin's Creed, justement, prend plus son temps aujourd'hui. Et qu'on n'aura pas de jeu cette année.
Le Assassin's Creed à Paris, qui était quand même le bugland.
Bah, au moins, ils nous ont offert les DLC, donc c'était déjà ça.
Ouais, mais voilà. C'était l'épisode, ça se voyait que ça commençait à aller trop vite pour
eux. Eux, ils ont réussi, par exemple, là, c'est peut-être un contre-exemple, ils ont réussi peut-être à s'arrêter au bon moment.
C'est
avec Syndicate qui a commencé à avoir très mauvaises notes, alors que le jeu est bon.
Syndicate, je pense c'est très
plus,
sympa.
Je pense que c'est plus des notations coup de gueule. Ce que je comprends, par exemple, parce que c'est vrai qu'il est sympa, mais il y a un ras-le-bol de faire toujours la même chose. Même si c'est des graphismes différents, c'est un gameplay un peu différent, genre les combats ils sont mieux comme ça, ok, mais on veut quelque chose de nouveau vraiment qui donne une vraie fraîcheur en fait. Aujourd'hui quand on voit par exemple des The Witcher 3 qui t'apporte tellement de contenu avec un gameplay plutôt sympa, enfin voilà. Tout ça pour dire que Assassin's Creed,
c'est peut-être le fait aussi qu'il n'y ait plus vraiment de scénario au final.
Bah,
parce que dans tous les premiers, tu avais le scénario par
depuis
Assassin's
Creed 3.
Ouais.
Depuis les histoires de Connor et de Desmond Miles, il n'y a plus rien et c'est inintéressant. Enfin, Black Flag, on s'est dit, c'est l'épisode de transition.
C'est ça.
C'est sympa le côté en première personne.
Et tu es un pirate.
Oui, voilà. Après, t'as eu Unity où là, ils sont perdus. Hein. C'était nul. Et Syndicate, j'en parle même pas avec les phases de trailer.
Et les Chronicles.
Triste.
Bon, ça, on n'en parle pas non plus,
voilà.
Mais
voilà.
Est-ce que. Moi, j'ai l'impression que Ubisoft essaye de se racheter depuis quelques temps, tu vois. Ils essayent de prendre un peu plus leur temps. On voit que le Watch Dogs 2, ils ont quand même foutu des efforts dedans. Alors que.
Y en a beaucoup même qui disent qu'il est bien meilleur, il est plus fun. En fait, ils arrivent à trouver, en fait, qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur licence, je pense.
C'est ça, je pense que. Et en plus, il y a tous leurs soucis en ce moment d'investisseurs. Il y a l'histoire de Bolloré qui est en train d'absorber petit à petit le studio. Du coup, Ubisoft se dit on va essayer de faire des trucs de qualité pour pas filer nos parts à ce connard, hein, on peut le dire comme ça.
Je pense que c'est le dernier gros événement qui a eu un ratage, c'est quand même The Division.
Ouais.
Et que ça leur a servi de leçon. Et par exemple, je pense, tu vois, que le fait que Beyond Good and Evil 2, on parle que très peu, mais suffisamment, par exemple, pour faire. monter la hype, c'est suffisant. Là, le Watch Dogs, tout le monde en dit du bien. Là, le South Park, qui va être reporté. Mm. Enfin, il n'y a que des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Mm. On a des licences, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On pense par exemple à For Honor, on ne sait pas trop. Steep, le jeu là de bah, le nouveau de SSX un peu. Ouais, voilà. Mm. Le SSX de la concurrence. On ne sait pas ce que ça va donner, mais... Voilà, on sent que
bah,
par exemple par rapport à des Konami qui ont merdé, mais on comprend même pas pourquoi ils merdent comme ça. Ou Ubisoft a voulu peut-être survendre certains produits. Là, ça revient, mais j'ai l'impression surtout que c'est depuis The Witcher 3 que beaucoup de studios se sont dit un si petit studio arrive à faire des grandes choses.
Ouais.
Et peut-être qu'il faut montrer l'exemple quand on a beaucoup de moyens. Bon, après, il y a Activision qui fait toujours aussi.
Oui, bah, ils ont pas compris.
Mais bon,
ils ont
ça, pas compris ça encore, c'est ouais. Une autre histoire, mais voilà.
Ok, et eh ben moi, je voulais revenir sur un Zelda, puisque voilà, je ne suis pas fermé non plus et je n'aime pas tous les épisodes de la série.
Ah bah.
Contrairement à ce que mon tatouage est en train de dire. on va passer sous silence les Zelda CDI qui n'ont rien à voir avec la saga. Je voulais vous parler des épisodes DS qui, moi, ne m'ont jamais vraiment hypé, c'est-à-dire Phantom Hourglass qui était correct mais sympathique. Je voulais surtout vous parler de Zelda Spirit Tracks qui est sûrement la plus mauvaise idée qu'on puisse avoir dans un Zelda après un aigle, après Epona, un train. Voilà. Alors, je pense que déjà ça vous dit beaucoup de choses, mais Zelda Spirit Tracks, c'est surtout un jeu ennuyeux. Profondément ennuyeux, hein. Je pense que tu l'as fait, Ferdi.
Je l'ai pas fait en entier.
Ouais, moi non plus, je suis pas arrivé jusqu'au bout. C'est un jeu profondément ennuyeux, avec des mécaniques vraiment datées, avec une 3D dégueulasse sur DS. On est d'accord.
Oui, puis il n'y a rien, il n'y a pas de hype. Il n'y a pas de Zelda, il n'y a pas le charme de Zelda.
Voilà, il n'y a aucune hype, il n'y a aucun moment où tu dis, voilà, c'est épique, on est dans l'aventure. Moi, c'est ce qui me plaît dans Zelda et qui fait que chaque aventure reste magique. Voilà, pour moi, ça a été le Zelda de trop avant qu'il revienne une formule plus intéressante sur 3DS avec Link Between Worlds,
qui était très bon.
Qui se faisait suite à l'épisode Super NES.
Oui.
Et c'est un moment où il se disait, il faut absolument qu'on fasse de la full 3D pour Zelda, qu'on fasse des trucs le plus réaliste possible, alors qu'on est sur DS, une console qui fait à peine tourner de la N64, et ça ne marchait pas. Mmh, ça ne marchait
tout
pas.
À fait.
Je pense que la série Zelda est en train d'évoluer, peut-être de changer pour le bien, peut-être de changer pour le mal, on verra ça dans quelques mois.
Après, on peut voir souvent ce qui revient, c'est toutes les grosses sagas, c'est souvent le passage à la HD, à la 3D, mais la 3D HD en fait.
Oui,
je regarde les Sony qui étaient bons quand c'était de la 3D, mais pas HD, donc c'est-à-dire où tu pouvais te permettre de faire juste des polygones au final.
C'est vrai.
Et dès qu'on a commencé à faire des jeux détaillés, genre par exemple Twilight Princess, etc., c'est toujours des ratages.
C'est vrai
il faut qu'ils trouvent leur style. Et par exemple, je vois Zelda, depuis qu'ils ont commencé à faire du cel-shading, mais pas le cel-shading de GameCube, mais le cel-shading qu'on a vu dans le dernier Zelda qui était sorti sur Wii.
Skyward Sword.
On se rend compte que voilà, et là pour le prochain Zelda, ça a l'air d'être toujours pareil. Et Sonic, j'ai l'impression qu'ils ont merdé à ce niveau-là, c'est qu'ils n'ont pas trouvé comment faire pour.
C'est pour ça que le prochain Sonic, qui a l'air bien, sera en 2D.
Il s'appellera Sonic Mania. Alors je vous le dis tout de suite, il y a une super collector.
Ouais, elle est magnifique, sortir, oh purée.
Qui est magnifique, qui est une réplique de la Mega Drive de l'époque avec Sonic dessus. Et
il y a un
anneau de
l'époque. Oui.
Quand tu appuies, ça fait Sega comme ça, tu vois.
Wow.
Et ça, je pense qu'on va l'avoir. Et ça, je pense que je vais me précipiter dessus dès qu'on l'aura. Est-ce que quelqu'un avait envie de parler d'une dernière série avant qu'on attaque le quiz? On a un petit peu de temps encore, donc faites-vous plaisir.
On peut dire du mal de Dragon Age 2.
Oui, voilà. Oui. Voilà.
J'en dirai pas plus.
Dragon Age 2, c'est lequel? C'est Origins?
Non.
Origins, c'est le premier. Dragon Age 2, il y a un jeu qui s'appelle vraiment Dragon Age 2 pour le coup.
Qu'il faut oublier
de.
On a eu le 3 aussi de sortie.
Ouais, c'est ça.
Oui, voilà, qui était bien.
Qui était très bien en fait. C'est une très bonne série.
Je me rappelle pas du 2 en fait.
C'est très bien.
Personne ne s'en rappelle, c'est ça, c'est l'avantage.
C'est un peu un acte mondial que font les joueurs de Dragon Age qui essayent de faire oublier le jeu en fait.
Pour tout vous dire, j'avais payé le jeu 30 centimes à l'époque. Je sais plus comment j'avais réussi ce tour de passe-passe. Et j'ai regretté chaque centime que j'ai pu investir dans ce truc.
Et une autre licence qui était morte qu'on va parler, c'est Crash Bandicoot.
Ouais.
Crash,
on espère que tu reviendras un jour dans de bonnes
mains. Mais c'est annoncé, je crois qu'ils vont ressortir les remasters en PS4.
Parce que le 1, le 2, le 3, Crash Bash,
Crash Team Racing, etc.
Voilà, là on était comme ça, et puis après il y a eu Crash contre les Titans,
Clash of the Titans,
sur des épisodes qui n'étaient plus sur Sony.
C'était des bons jeux mobiles.
C'était
horrible. Je te jure, sur mon téléphone, il était trop bien.
Oh nom de Dieu.
Et sur DS aussi, ça.
C'était une horreur. On pourrait parler de Devil May Cry 2 qui a fait le choix de devenir un jeu sérieux et avec un autre personnage que Dante, absolument insupportable.
C'est ça.
qui était, je sais plus, je me rappelle même plus son nom, elle avait des petits couteaux absolument dégoûtants.
Enfin, elle c'était elle, une femme.
Il y avait une femme aux cheveux rouges, je crois, et qui voilà.
Qui est même pas restée dans le reste de la mythologie.
Voilà, qu'on n'a jamais revu dans la mythologie tellement elle a bidé, complètement bidé. Autre chose.
Bah, on va parler bon, Metal Gear Solid le prochain.
Le prochain, c'est...
Ah oui,
ah, oui les zombies. Oh là là, c'est vrai, Metal Gear
Zombie.
Une
série qui était à peu près cohérente, même si le 5...
Metal Gear Suicide.
Même si le, 5 pouvait, le 4 ou le 5 pouvait diviser les gens, au moins c'était une série qui restait cohérente.
C'est vrai.
Il y avait quelque chose, et là ouais. Hey, Kojima, il est parti, ouais, bah, on va bien le montrer qu'il est parti.
Non, on va foutre le bordel.
On va passer au quiz, même si on aurait voulu parler,
ouais,
parler de MGS.
On a plein de choses à dire, on y reviendra peut-être sur une autre fois.
C'est que la Switch nous a pris trop de temps. En fait.
La Switch nous a pris trop le temps, mais c'était intéressant. C'était intéressant quand même. On va passer donc sur le quiz, c'est parti.
Je passe le jingle.
Le jingle.
Kojima,
Konami,
Silent Hill. C'est le quiz de c'est la
faute à la manette. Parfait, ouais, c'est bien ça. On prendra ça la prochaine fois. Merci, Guillaume, pour ton intervention. C'est super. Alors, du coup, cette semaine, le quiz est toujours préparé par Manon. On la remercie encore une fois.
Merci Manon.
Merci Manon.
Du coup, le thème de cette semaine, c'est les méchants dans le jeu vidéo. Est-ce que ça vous parle, peut-être?
Oui, ouais, beaucoup, oui. Ouais.
Alors,
la Team Rocket.
Donc, vous êtes trois à jouer, du coup, finalement. Ouais.
Alors, on rappelle les règles.
Tu règles la custom et tu mets Mathilde à la place.
On rappelle les règles, on dit son prénom en levant la main.
Voilà, on dit son prénom en levant la main. Et ça c'est marche. La première personne que j'entends, que j'interroge, effectivement. Ouais. Ok, la musique de fond est
présente. Allié.
Je l'entends beaucoup moins.
Ah, voilà, là, on l'entend bien.
C'est la musique du quiz.
Alors, première question pour 2 points. Attention, c'était une question de rapidité. Dans quel jeu rencontrez-vous Pyramid Head?
Ferdi.
Oui.
Silent Hill.
Oui, 2 points pour toi, Ferdi. Bravo. Alors, question numéro 2. Qui vous prouvera qu'il est l'homme dont la folie n'égale personne dans Far Cry 3?
Guillaume,
Vass, ouais. Est-ce que tu peux me donner son nom de famille?
Ah, il a un nom de famille.
Il a un nom de famille, mais t'as quand même gagné, mais vas-y.
Vass Montenegro.
Oui, c'est ça.
Ah oui, Vass Montenegro.
Allez, il est génial ce personnage.
Best méchant ever.
Ouais.
Toujours pour 2 points, qui tue le père de Ryo Hazuki dans Shenmue? Révisez vos classiques un petit peu.
Ouais.
Ça doit être un nom un peu à consonance asiatique. Yamamoto.
Alors non, sa consonance asiatique, effectivement, c'était un peu raciste.
Un peu pour ce monsieur.
Un peu.
La Team Rocket.
Non, c'est pas ça. Mathilde, une idée?
Pas du tout.
Pas du tout. Alors, personne n'a marqué de points. C'était Landy.
Landy.
Landy. Ça fait pas très asiatique.
Ça fait Shrek un peu.
Ça fait Shrek un peu. Bon, ok. Alors, question numéro 4 pour 3 points. Peut-être une question de rapidité également. Qui vous offrira un combat épique à la fin de Metal Gear Solid 4?
Ah, c'est le commandant là? Non?
Ferdi? Revolver Ocelot?
Alors, il s'appelle plus Revolver Ocelot dans le 4.
Il s'appelle comment?
Mais tu es pas loin. C'est un mélange entre 2 personnages à la fin.
Ah oui.
Je ne sais pas.
Allez, on te l'accorde quand même, c'était Liquid Ocelot.
Ah, c'était ça, oui. Je me souvenais de ça. Combien de points j'ai eu?
3 points. Oui. Question numéro 5 pour 3 points. J'ai des cheveux longs, j'ai une musique d'entrée assez badass, j'ai une épée...
Ferdi.
Oui.
Sephiroth.
Sephiroth, très
bien. T'es obligé de me mettre Sephiroth dans un quiz de toute façon.
Très bien. Je finis du coup. Vas-y. Une épée tellement grande qu'elle semble compenser autre chose et ma mère est dans un bocal géant, qui suis-je?
C'est
vrai. Voilà, c'était Sephiroth, un peu ça, effectivement. Hein. Question numéro 6 pour 4 points. Grand manipulateur, il parviendra à faire du prince Lord Daeron son pantin. Qui est-il?
Ah bah c'est le... Attends. Lord Daeron.
Ouais.
C'est le nom du prince.
Ouais.
Alors, ça, je sais même pas le jeu que
c'est une
alors.
Question de PCiste, c'est dans Warcraft 3.
Oh bah.
Je pensais qu'il y aurait Tom. Hein,
ouais, mais... ouais. Bah oui. Bon, on va faire une petite pensée pour Tom. Ouais. Parce que Tom aurait répondu.
Tom aurait répondu Arthas Menethil, le roi Lich de Warcraft 3.
Tom, on pense à toi.
Ah, le roi Lich.
le roi.
Question numéro 7 pour 4 points. Il fera tout pour récupérer l'amulette de sa mère. Il apparaîtra dans le premier opus sous forme de Nello Angelo. La haine fraternelle est à son summum dans le troisième épisode.
Haine fraternelle ? Donc c'est un frère.
C'est un frère.
Du héros. C'est qui le nom du héros ? Quoi ?
Le nom du héros est Dante.
Putain, j'ai plus le nom. Je vois très bien le personnage et j'ai plus le nom.
C'est Ferdi Virgile.
Oui, c'est Virgile, tout à fait.
Voilà.
Combien de points ?
4 points.
Hey.
Question numéro 8 pour 5 points. Il survivra à la taille du tyran en s'injectant un virus.
Du titan ?
Du tyran. Dans Resident Evil.
Oui.
C'est le méchant caractéristique de la série.
Ferdi ou Wesker ?
Wesker, effectivement. 5 points pour toi, Ferdi.
Oh non.
Albert Wesker.
Plus que 3 questions. Question numéro 9 pour 5 points. Contaminée par les Zerg, elle est devenue le bras armé de l'Overmind. Qui est-elle ?
Tom. Non, j'ai plus son nom. Ouais. Mais Tom aurait trouvé encore. Ça. Ouais. Allez, on pense à toi.
Tom.
Tom. Comment ça s'appelle ?
Sarah Kerrigan. Oui, ouais. Bien joué, Tom. Bravo. Ok, question numéro 10 pour 6 points. L'avant-dernière, son nom signifie forme de vie génétique et système d'exploitation de disques, traduit dans la langue de professeur.
Ah, ça doit être Portal, ça, non ? C'est.
Alors, vas-y.
J'ai plus son nom. Gladys ? Glados ?
Allez, Glados, effectivement, c'est ça. Question numéro 11 pour 6 points. Ptérodactyle de l'espace, il disposera plus tard d'une forme métallique. Qui est-il ?
Ah, ça, c'est Star Fox.
Ridley, effectivement, dans Metroid. 6 points pour toi, Ferdi. Et je pense que tu as gagné
ce
soir.
Largement.
Mais Tom n'était pas là. Tom est plus rapide que nous.
Effectivement, il y avait. C'était un peu plus compliqué. Ok. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin déjà de l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous tient au courant sur notre page Facebook. On fera un grand concours. On aura des jeux à gagner. Peut-être la prochaine fois, plein de choses. Ça va être super. Et on vous dit à dans 2 semaines. Plein de bisous.
Ciao.
Salut.